Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de l'impact que peut avoir une relation extra-conjugale, une infidélité sur la sexualité. Apprendre que son partenaire partage une relation intime avec une autre personne provoque un choc, voire un traumatisme. Et cette découverte peut être suivie d'une période de crise. Ces crises qui vont bouleverser les sentiments, les repères à divers degrés en fonction de la situation du couple. Pour certains, cela sonne la fin d'une histoire ou le début d'une période d'éloignement, de rancœur, de tristesse. Quand pour d'autres, eh bien, cela peut correspondre à une forme de renouveau qui passe par des ajustements et pourquoi pas certaines améliorations. Alors, comment faire face à une infidélité? Faut-il toujours chercher à réparer la relation? Est-ce qu'une séparation peut être préférable, se remettre en cause? Mais jusqu'à quelle limite? Supporter ou dire stop? Vous pouvez nous appeler pour témoigner, raconter les étapes par lesquelles vous êtes passé, ce que vous avez appris de cette expérience, des erreurs aussi peut-être que vous regrettez ou à l'inverse, une attitude qui, selon vous, a été la bonne. Vous avez en tout cas la parole, auditrice, auditeur, pendant toute cette émission. 33 84 22 75 75, c'est notre numéro. Émission complète pour poser toutes vos questions avec évidemment à mes côtés le docteur Catherine Solano. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices.
Alors, sexologue, votre expérience de consultation, vous êtes là à répondre bien sûr à toutes les questions. 50 minutes pour échanger sur notre thème du jour. Et pour commencer, docteur Catherine Solano, peut-être avant de donner tout de suite la parole aux auditeurs et aux auditrices, quand on parle d'infidélité, on parle d'une situation souvent cachée dans un premier temps, avec donc cette dimension de secret, de clandestinité.
Oui, c'est vrai parce que en fait, souvent l'infidélité, ça commence dans la tête, dans l'envie d'avoir une relation avec une autre personne. Et évidemment, quand c'est dans la tête, on a tendance à pas en parler. Et le problème, c'est que le secret, quand on a des pensées comme ça qu'on dit pas à son partenaire ou à sa partenaire, ça peut être excitant. Donc faciliter le passage à l'infidélité. Du coup, en fait, ça reste souvent secret longtemps. Alors, il y a des personnes qui craquent à un moment, qui se disent « je me sens très mal, je dois en parler à ma femme ou à mon mari ». Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément, d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres personnes qui continuent à cacher pendant très longtemps et un jour, c'est découvert et c'est une grosse crise de couple. Donc, c'est vraiment le secret, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent. Même s'il y a des couples qui se disent « nous, on veut une relation ouverte, on se promet pas fidélité ». Et dans ces cas-là, c'est pas forcément secret parce que ça existe aussi, même si c'est quand même moins fréquent.
Alors justement, tout dépend de ce qui a été dit, une forme de contrat au départ. Mm-hmm. Contrat basé sur la confiance, quand il y a justement ces relations extra-conjugales, une maîtresse, un amant qui arrive dans le tableau. Est-ce que on peut parler d'une brèche, d'une fissure, voire d'une blessure?
Alors, on peut être très blessé, surtout effectivement quand on s'est promis fidélité en parlant ou en se mariant, c'est-à-dire qu'on a un contrat où c'est noté qu'on s'engage à être fidèle. En revanche, c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui ne se comprennent pas, qui sont en couple et qui ne sont pas mariés, qui ne se sont pas parlé de fidélité. Et pour l'un des deux, eh ben c'est évident que ce n'est pas facile d'être fidèle. Donc même si on reste ensemble et qu'on s'aime, on n'est pas forcément fidèle. Et l'autre s'en aperçoit et tombe des nues parce que pour lui, la fidélité, c'était évident. Donc je pense que cette question, c'est que la fidélité, c'est quelque chose dont on doit parler pour savoir ce que l'autre pense de cette valeur. Et si on est sur la même longueur d'onde.
Et c'est ce qu'on va entendre tout de suite avec les questions des auditrices et des auditeurs. On vous donne la parole.
Priorité santé sur RFI.
Notre premier appel nous vient du Mali, de Mopti, avec Issa, qui est en ligne avec nous. Bonjour Issa.
Bonjour.
Le docteur Catherine Solano est à votre écoute, allez-y.
Ok, donc moi je suis à Douanja, dans la région de Mopti. Mm-hmm. Je suis en service dans la région de Tomobo, à une centaine de kilomètres. Je suis marié il y a un an de cela. Mm-hmm. Tout va bien pour l'instant entre ma femme et moi. Mm-hmm. Et bientôt, je reviendrai à mon poste où je resterai pendant au moins 9 mois.
Mm-hmm.
Ma question est de savoir si cette langue apprend pourrait créer l'infidélité.
Mm-hmm.
Comment gérer l'amour à distance?
Alors Issa, si je résume, parce que le son de la ligne n'était pas forcément très bon, vous travaillez à distance de votre épouse, vous êtes contraint justement par ses obligations professionnelles de rester éloigné sur une longue période, et votre inquiétude c'est de savoir justement comment rester unis et comment éviter justement que l'un ou l'autre aille voir ailleurs, si on peut dire un peu trivialement comme ça, en étant éloigné. Mmh. Une question très concrète hein, que pose Issa, docteur Solano, parce que ça peut être un vrai problème.
Alors d'abord, c'est bien, vraiment bien de vous poser la question, parce que à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on a envie de faire quelque chose, parce que c'est vrai, on doit être réaliste, que la distance n'aide pas le couple à être proche. C'est une difficulté dans le couple, et effectivement, la distance, ça peut favoriser l'infidélité. Ça, c'est vrai, vous en avez conscience, c'est pour ça que vous vous posez la question. Maintenant, quand on y pense vraiment, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est d'en parler avec votre femme, de lui dire, écoute, je sais qu'on va être loin pendant longtemps, moi, j'ai envie qu'on soit fidèles, j'ai envie qu'on reste ensemble, que notre couple aille bien et pas qu'il y ait des accros dans notre contrat de fidélité. Parce que déjà, quand vous allez dire ça à votre épouse, même si vous pouvez avoir des tentations elle aussi, ça va la rassurer sur votre envie d'être ensemble et de pas se dire, bah, je suis mariée, mais bon, c'est pas grave, on peut aller voir ailleurs, comme disait Caroline. Donc ça, je pense que c'est très important. Alors, comment faire pour que ça se produise pas? Déjà en parler comme ça, comme je vous le dis, et puis se dire ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'infidélité, pour ne pas être trop tenté. On peut toujours, tout le monde peut l'être un jour ou l'autre, mais c'est pas grave si c'est une petite tentation en passant et que ça va pas plus loin. Vous voyez, faut pas non plus se dire on doit jamais penser parce que on est des humains, c'est la vie. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ben il faut se téléphoner au maximum pour rester proche, se raconter des choses de la vie tous les jours pour pas que ça soit juste un petit coup de fil de temps en temps où on se dit juste je pense à toi, mais qu'on raconte pas ce qui se passe dans la vie, parce que on n'a pas seulement besoin de sexualité, on a besoin d'échanger sur nos petites questions sur la vie, sur nos difficultés, si on est un peu malade, j'en sais rien, ou si on est grippé même, ou si on a une difficulté avec un élève puisque vous enseignez. Et puis aussi il y a tout ce qui est vidéo maintenant, parce que c'est beaucoup plus facile qu'autrefois par rapport aux marins qui partaient pour se voir, voilà. Et aussi pas seulement se parler des petites choses de la vie tous les jours, mais se parler d'amour, vraiment se dire qu'on s'aime, qu'on se manque. Et peut-être aussi une autre chose qui est très importante à mon avis, c'est s'écrire éventuellement des petits mails. Je parle pas forcément des lettres. Bon, on peut s'envoyer des lettres, pourquoi? Parce que les écrits ça reste. Si on peut pas s'appeler pendant 2 jours pour une raison ou une autre, la ligne marche pas, etc.
Des mots doux,
et on peut les relire. Ça, c'est très important aussi, parce que c'est toujours présent, les paroles, alors que les coups de téléphone, ben, ça s'envole, les paroles, voyez.
Et ça, vous restez en contact régulier avec votre époux, justement, quand vous êtes éloigné?
Oui, je reste de temps en temps en contact régulier avec elle, parce que la durée que nous séparons parfois ne dépasse pas les 1 mois quand même.
1 mois de séparation,
ah, oui.
Mais vous continuez à vous appeler très très régulièrement?
Oui, au moins la durée de notre appel ne dépasse pas comme au maximum 1 mois.
1 mois. Ouais, donc 1 mois, c'est quand même moins difficile que 1 an. Et d'ailleurs, quand on parle de garder le contact, je pense à un couple que je connais. J'avais trouvé ça super. Ils sont mariés depuis au moins 50 ans maintenant. Bon, ils sont en retraite, mais quand ils travaillaient, un jour, ils m'ont dit tous les jours. La dame me disait tous les jours le midi, mon mari m'appelle pour me raconter ce qu'il a fait dans la matinée. Alors je dis pas qu'on est obligé de faire ça, évidemment, ça dépend. Non, mais ça dépend des personnes. Mais j'avais trouvé ça super, parce que c'est comme s'il avait envie qu'au travail sa femme soit un peu là avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils sont toujours restés très proches. Et d'ailleurs ils sont toujours très proches. Donc il faut trouver ce qui nous rapproche.
Issa, est-ce que vous avez posé la question à votre femme? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous lui avez fait part de vos craintes en disant « Quand je m'éloigne de toi, des fois, je suis un petit peu inquiet. » Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez parler tous les deux?
Oui, bien sûr, nous pouvons en parler, mais pour l'instant, je n'ai jamais essayé.
Vous ne l'avez pas fait encore?
Ah oui, mais faites-le, parce que si vous voulez, un homme qui dit ça à sa femme, j'ai peur qu'on se trompe, etc., qu'on ne soit pas fidèle, j'ai envie qu'on reste proche, ça montre qu'il tient beaucoup à elle et à leur relation. Donc c'est quelque chose de vraiment positif, en fait, hein.
Voilà Issa, on vous souhaite une excellente journée dans la région de Mopti. On va partir pour le Cameroun tout de suite. Garoua, nous sommes en ligne avec Bello. Bonjour Bello.
Bonjour madame.
Le docteur Solano est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour Bello.
Bon, donc, moi je suis au nord Cameroun, précisément à Garoua. Comme je disais sur mon message, je suis marié avec ma femme il y a de cela 8 ans. Et j'ai découvert son infidélité il y a de cela 1 an. Qu'elle me trompe. Bon, avant qu'on se marie, pendant nos fiançailles, bon, il y avait quelque chose bon, comme une infidélité, mais je savais qu'elle était infidèle, mais je l'aimais comme ça. Bon, ma famille me dit qu'il ne faut pas que je l'épouse comme ça. Bon, j'ai dit que moi, j'ai décidé de l'aimer, bon, pour la vie, bon, j'ai décidé de l'épouser. Elle était fidèle pendant 7 ans. 8e année qu'elle est fidèle, j'ai découvert son nouvel diable, cela, un an. Ma question est que, est-ce que, il y a quelque chose qui manque à moi, peut-être, je ne sais pas, qu'elle cherche ailleurs.
C'est une question
qu'elle n'a pas trouvé chez moi.
Que vous nous posez, moi j'ai une petite question pour vous. Vous lui avez posé à elle cette question?
Oui, justement.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Elle m'a dit, elle ne sait pas, ça arrive souvent, bon, elle ne sait pas. Bon, moi, au fond, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et vous avez découvert que votre femme vous trompait? Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez fait cette découverte?
Bon, en fait, quand je pars au boulot, je rentre, je sais qu'elle prépare, elle fait, bon, je passe ma commande, elle fait mon repas. Bon, je trouve encore une autre commande à côté. Je demande ça, c'est pour qui? Elle me dit pas. Bon, j'ai mené mon petit enquête. Quand on a 2 enfants, je dis maman souvent fait comme ça avec la nuit, elle amène ça, ouais, maman soit avec ça quand tu rentres. Bon, un jour, je suis rentré, je l'ai suivi quand elle amène la nourriture. Chez la personne, j'ai vu la personne dans un hôtel. Bon, ils sont entrés là-bas. Bon, moi, j'ai pas voulu entrer dedans pour faire pas de scandale. Je suis sorti. Bon, voilà comment j'ai découvert. Je l'avais en parlé. Elle me dit, c'est un service qu'elle a rendu. Bon, elle cherche des prétextes, mais un femme mariée ne fait pas ça.
Elle a nié, elle. Bon. Elle a pas reconnu qu'elle avait un amant. Elle l'a nié.
Oui, elle a dit que c'est un collègue qu'elle a rendu service. Voilà, putain.
Ah. Donc, les choses ne sont pas totalement claires. En tout cas, elle n'a pas reconnu qu'elle avait fait cela. Vous n'avez pas pu en parler ouvertement.
Oui, voilà.
Docteur Solano.
Ça, c'est difficile aussi quand on... c'est difficile quand quelqu'un nie, parce que, je sais pas, elle est trop mal pour avouer, en fait. Hein. Et donc, pour vous, c'est pas facile de savoir comment faire, parce que c'est comme si vous n'aviez pas une base sur laquelle vous appuyez. Parce que quand quelqu'un dit oui, ça s'est produit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, pour que tu retrouves la confiance, ça va. Là, c'est pas facile. Alors, je voudrais dire quelques petites choses par rapport à ce que vous nous avez dit. C'est d'abord, quand vous l'avez connue, vous saviez déjà qu'elle était infidèle, qu'elle avait eu des relations extra-conjugales. Pourquoi vous l'aimiez malgré tout? Pourquoi vous vous êtes pas dit, si la vitalité c'est important pour vous, c'est pas la femme qu'il me faut?
Non, pour moi, je me disais qu'elle devait changer. Elle a changé pendant 7 ans, on vivait pas fortement. Mais c'est le 8e année qui est justement, on vivait pas du tout comme une couple normale. Mais elle était fidèle pendant 7 ans.
Voilà, donc c'était quand même... Et vous lui avez dit que vous l'avez vu rentrer dans cet hôtel, parce que même quand un collègue vous rend service, c'est rare qu'on aille à l'hôtel avec lui quand même.
Oui, justement, c'est ce que je lui ai dit. Mais c'est plus d'avouer qu'elle est fidèle. Ouais, c'est ça mon problème, madame.
Et Bello, vos relations, elles s'étaient abîmées cette dernière année avant justement qu'il y ait cet événement?
Non, abîmées pas en tant que tel.
Pas en tant que tel, vous entendiez toujours aussi bien?
Oui, parfaitement. Oui.
Alors justement, c'est intéressant parce que je vais vous dire quelque chose. Quand notre conjoint a une relation extra-conjugale, vous faites ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre couple qui lui manque? Est-ce que on pourrait faire quelque chose pour qu'elle se sente comblée dans notre couple et qu'elle n'ait pas besoin d'aller chercher ce qui lui manque ailleurs? C'est la question que vous vous posez. Alors c'est très bien de se la poser, néanmoins, il n'y a pas toujours de réponse parce que on peut être très très bien en couple et avoir quand même des relations extra-conjugales. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles ou qui ont besoin d'être rassurées sur leur capacité de séduction. Par exemple, des personnes qui n'ont pas été très aimées par leurs parents, des fois, à l'âge adulte, ont besoin d'être rassurées en se disant « je plais », même si leur mari les rassure beaucoup. Il y a un espèce de vide en elles qui fait qu'elles vont aller chercher ailleurs et ça vient pas forcément d'une difficulté de couple, voyez ? C'est pas forcément lié au fait que vous fassiez pas ce qu'il faut, soit dans la sexualité, soit dans la vie de tous les jours, soit dans le soutien, soit dans les compliments, soit dans la manière dont vous l'entourez, soit dans la manière dont vous êtes père avec vos enfants, etc. et vous la soutenez. C'est pas forcément lié à vous.
Et Bello parle aussi de la pression familiale, hein, qui peut intervenir dans sa famille lui dit ta femme t'a trompé, quitte-la. C'est difficile aussi à supporter, docteur Solano.
Ah oui. Alors ça, je vais donner un conseil aussi, c'est que quand on connaît quelqu'un qui a été trompé, il ne faut surtout pas donner de conseils. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « reste avec elle, elle est super quand même », parce que vous ne savez pas tout. Et il ne faut pas dire non plus « va-t'en, tu ne pourras pas supporter ça, tu vas être malheureux toute ta vie », parce que vous n'en savez rien. Donc, et on peut poser des questions, on peut donner des conseils. Le meilleur conseil à donner, c'est réfléchis, prends ton temps, ne prends pas de décision rapide. Parce que souvent, on prendrait une décision rapide. Par exemple, on découvre sa femme à l'hôtel avec un autre homme, on se dit « je la quitte, c'est pas possible ». Et puis, on s'aperçoit 3 semaines après, ou 1 mois après, ou 1 an après, qu'en fait, elle est en dépression ou que son chef lui avait fait du harcèlement et qu'elle n'osait pas dire non. Enfin, vous savez, on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. Du coup, on a fait une bêtise en se séparant. Si on doit se séparer, ce n'est pas une urgence. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir.
Voilà, Bello, pour ces conseils. On vous souhaite une bonne journée à Garoua. On va partir pour Brazzaville, le Congo, où nous sommes en ligne avec Amanda. Bonjour, Amanda.
Bonjour.
On vous écoute, Amanda.
Oui, moi j'ai une expérience à vous expliquer.
Oui.
J'ai vécu avec un homme qui était mon fiancé en ce temps. Nous avions vécu à peu près 3 ans. Et à un moment donné de sa vie, il était question qu'il aille faire des études en Europe. Et quand il m'a annoncé l'idée, j'ai trouvé cela super, surtout pour sa carrière professionnelle. Donc, je n'avais manifesté aucune résistance. J'ai tout de suite accepté cette idée. Et quelques temps après, il est parti. Il partait pour 4 ou 5 ans. De temps à autre, pendant les vacances, les congés, il venait, il se voyait. Tout était parfait. Et à la fin, au terme de ses études, il m'annonce qu'il ne pouvait pas rentrer parce que il avait trouvé une femme et puis ils avaient déjà un enfant avec elle. Donc ça m'a vraiment secoué. C'est pas facile de se remettre. Mais heureusement pour moi, quelques mois plus tard, j'ai refait ma vie avec un autre homme qui était mariée, mais le constat que j'avais fait, ce que je ne faisais pas avant, j'étais devenue très jalouse de lui. Je ne pouvais pas supporter qu'il s'absente, qu'il soit avec d'autres femmes, même en causerie et tout, vraiment pas. C'est devenu très, très, très jalouse. Cela a conduit même à nous séparer. Voilà.
Et vous avez une question, Amanda, à poser au docteur Solano ?
Oui, en fait, ma question est la première. Je me dis, est-ce réellement ma séparation du premier homme qui m'a conduit à devenir comme ça ? Parce que moi-même, je ne me contrôle plus. Et deuxièmement, comment pourrais-je faire pour me défaire de cela, quoi ?
Cela, c'est votre jalousie, c'est bien ça ? C'est votre jalousie. C'est ce sentiment de trahison que pose Amanda. Est-ce que cette trahison, puisqu'elle a découvert non seulement qu'il y avait eu quelqu'un d'autre dans la vie de son fiancé, mais aussi ce bébé, donc c'est quelque chose qui est vraiment très construit, Est-ce que c'est ça qui la rend aujourd'hui si jalouse et qui l'empêche de construire une autre relation?
Ah ben, c'est quasiment certain, oui, parce que quand un homme revient pour les vacances, que c'est parfait, comme vous disiez Amanda, et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il vous mentait et qu'il avait un enfant, c'est quand même un traumatisme énorme. C'est pas du tout la même chose que si quelqu'un part loin et dit, écoute, finalement j'ai rencontré quelqu'un, dès que ça se fait, c'est pas agréable, c'est très dur aussi, mais c'est pas malhonnête, j'irais. Vous voyez, c'est pas du tout le même cas de figure. Et du coup, ce que vous décrivez, c'est un traumatisme, en fait. Vous voyez, quand on a un traumatisme, ce qui montre que c'est un traumatisme, c'est que notre vision du monde n'est plus la même qu'avant. Avant, vous aviez une vision du monde et des relations amoureuses équilibrées. Vous vous disiez, il part pour ses études, je l'encourage, je le soutiens parce que je l'aime, c'est une bonne idée. Et maintenant, à cause du fait qu'il vous a trompé et menti, c'est les deux, vous voyez plus du tout les choses pareilles et c'est plus fort que vous, même si vous n'avez pas envie d'être jalouse, ça s'active. C'est comme si votre cerveau vous disait, bah, méfie-toi des hommes maintenant, je veux surtout pas que ça t'arrive une deuxième fois. D'ailleurs, c'est fort probable que vous ayez une relation avec un homme marié pour vous protéger de ça. Parce que votre cerveau s'est dit, bah, il est marié, de toute façon je sais ce qu'il fait avec sa femme, et donc bah, j'aurais pas peur qu'il se passe autre chose. En fait, malgré ça, il a quand même eu peur. Et j'ai remarqué une expression que vous avez eue. Vous avez dit, j'ai refait ma vie avec un homme marié. Et ça m'a fait de la peine parce qu'on refait pas sa vie avec un homme marié. Lui, il a sa vie et on a une relation extra-conjugale, une liaison, mais c'est pas refaire sa vie parce que c'est en pointillé malgré tout. Voilà. Donc, que faire pour ça? Parce que c'est certain, à 99% que c'est dû à votre histoire. Que faire pour ça? Ben, le mieux, ça serait de voir quelqu'un qui vous aide, à qui vous pouvez en parler, de faire une thérapie. Il y a des méthodes pour travailler sur les traumatismes et aider le cerveau à les digérer. Alors, le temps peut aider aussi, mais quelquefois, ça ne suffit pas parce que quand c'est quelque chose de très, très douloureux, qui a été un choc terrible, eh bien, on a du mal à s'en remettre spontanément.
Amanda, est-ce que vous avez pensé à consulter un psychologue? Est-ce que vous avez les moyens de le faire à Brazzaville?
Oui, à Brazzaville, ils sont là, oui.
Oui.
Les consulter, non, l'idée ne m'est jamais arrivée.
Et c'est quelque chose que vous pourriez faire maintenant, après avoir peut-être réalisé qu'il y avait un blocage qui vous empêchait de développer une relation amoureuse qui vous plaise vraiment, qui vous rende heureuse?
Oui, je pourrais le faire parce que je me dis, si je ne le fais pas, peut-être que je pourrais retomber dans les mêmes.
Dans le même schéma.
Alors, il y a aussi une méthode qu'on utilise maintenant en thérapie et qui peut marcher bien, c'est de trouver un psy à qui vous pouvez parler de ça, raconter cette histoire. Et parfois, maintenant, on prescrit ce qu'on appelle un bêta-bloquant avant la consultation, parce qu'on a remarqué que le fait de raconter plusieurs fois le moment du traumatisme en ayant pris un bêta-bloquant, qui est prescrit par un médecin, ça bloque les émotions, un petit peu les réactions physiques, et ça aide le cerveau à réussir à penser à ce traumatisme avec moins d'angoisse, et petit à petit, ça allège le fardeau que c'est moralement, et on arrive à s'en libérer. C'est une méthode qui est de plus en plus utilisée parce que c'est simple et que c'est assez efficace.
Voilà, sur prescription médicale, on vous souhaite une très très bonne journée, Amanda, au Congo-Brazzaville. On part pour Dakar, le Sénégal. Youssoufa avec nous en ligne. Bonjour Youssoufa.
Bonjour.
On écoute votre témoignage.
Non, moi, mon témoignage, ça se base sur la fidélité.
Sur la fidélité.
Et oui. Parce que moi, vous m'avez appelé hier. J'ai raconté, je l'ai dit, ma vision sur la fidélité. Parce que la fidélité, c'est quelque chose de précieux. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend. Vous avez justement, quand vous vous êtes marié, ça veut dire Youssoufa, que vous avez parlé de la fidélité avec votre épouse et que votre union a été vraiment scellée sur cette promesse, sur cette confiance.
Oui, sur cette confiance mutuelle, oui.
Mais dans votre entourage, vous avez des personnes justement qui sont infidèles, des amis qui vous racontent certaines relations. Comment vous échangez avec eux justement à ce propos?
En général, je leur dis à mieux être fidèle à sa partenaire parce que ça leur aide sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Parce que quand on est fidèle à son partenaire, en général, on se protège contre les IST.
Contre les infections sexuellement transmissibles.
La fidélité harmonise notre couple. Parce que quand on est fidèle, en général, on ne vit pas de regrets. On est toujours en harmonie avec son partenaire.
Alors,
on ne vit pas de remords aussi. Parce qu'en infidèle, en général, on vit de remords. On dit, moi, je trompe moi, ma femme, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me manque. En général, on vit avec des remords. Ils ne sont pas visibles à l'ennemi, mais tu sais très bien ce que tu fais, ce n'est pas normal.
Docteur Catherine Solano, donc ce témoignage de Youssoufa qui fait part de ses convictions, mm-hmm. pour lui c'est la fidélité, mm-hmm. qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Ben, quand il parle des remords, c'est vrai que moi je vois moi-même en consultation des hommes qui me racontent, je pense à un patient que j'ai vu il y a quelque temps, qui me racontait avoir une maîtresse et qu'il se sent très très mal vis-à-vis de sa femme, et aussi vis-à-vis de sa maîtresse, parce qu'il dit à sa maîtresse qu'il a plus de rapport sexuel avec sa femme et à sa femme qu'il a plus de maîtresse et que c'est pas vrai. Et donc, il me dit, je suis dans le stress tout le temps, je me sens très mal. Et c'est vrai, dans ce que dit Youssoufa, ce que je trouve important, c'est que il faut chercher à ce que la sexualité nous rende heureux. Quand c'est pour vous apporter que des ennuis et du stress toute la journée, c'est peut-être pas la bonne situation. Donc, je suis d'accord avec vous. Après, il y a aussi des personnes qui sont infidèles et qui n'ont pas du tout de remords. Qui n'ont pas d'état d'âme. Il y a aussi des personnes qui changent. Je pense à un de mes patients qui m'a dit un jour, il me dit, vous savez, Madame Solano, moi, j'ai longtemps trompé ma femme et beaucoup. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça alors que j'adore ma femme, on s'entend très bien. Et donc, j'ai arrêté de la tromper et depuis, je me sens beaucoup plus heureux. J'ai plus de temps pour ma famille et mes enfants et je me sens aussi plus amoureux de ma femme et finalement, je trouve que c'est mieux. Donc, il ne le disait pas à sa femme n'était pas au courant. Donc, vous voyez, je me dis, il y a...
C'est pas forcément inscrit, on peut changer aussi.
On peut changer, exactement.
En tout cas, merci Youssoufa pour son appel et on poursuit cet échange avec vous, docteur Catherine Solano. Hein, toujours les questions des auditeurs de Priorité Santé sur l'impact de l'infidélité sur les relations amoureuses et la sexualité. Et on part tout de suite pour la République démocratique du Congo, Lubumbashi, où l'on retrouve Bema. Bonjour Bema.
Bonjour.
On vous écoute, le docteur.
Bonjour les filles, bonjour.
Le docteur Solano est à votre écoute, allez-y.
D'accord. Moi, j'ai réagi par rapport à une grande inquiétude.
Oui.
Face à cette infidélité-là. Mm-hmm. Pour me résumer, c'est que j'ai vu cette situation-là depuis plusieurs années. Tout a commencé quand j'étais encore adolescent. J'ai eu une déception. À la suite de cette déception-là, je m'étais décidé de dire qu'il était inutile de rester avec une seule copine ou une seule femme. Il fallait en avoir beaucoup ou en cas où l'une d'entre elles arrivait à partir. Comme ça, vous n'aurez pas assez de choc. Mais cette histoire-là, apparemment, ça s'est un peu plus métamorphosé à moi. Et jusqu'à ce que je me suis marié, je connaissais toujours des relations extra-conjugales. Même avant, dans les fiançailles, ma femme a eu à découvrir plusieurs fois. Elle n'en faisait pas un cas. Elle a laissé passer. Et maintenant, quand nous sommes maintenant ensemble, il y a eu aussi d'autres cas qui se sont produits. Mais au début, là, elle pardonnait. Au début, elle pouvait seulement me dire, voilà, ce que tu fais n'est pas bon. Elle pouvait se plaindre, elle pouvait pleurer. Mais ces derniers temps, elle commence à être un peu incontrôlable. Elle gère très mal la situation. Donc, j'ai craint qu'elle puisse arriver peut-être un jour à me quitter ou à tricher aussi. Parce qu'elle n'avait jamais révélé ça à qui que ce soit, mais aujourd'hui, dans la famille, et dans ma famille, et dans sa famille, c'est quand même déjà connu. Voilà cette crainte-là qui
Alors moi, j'ai quelques petites questions à vous poser, Bema. Vous dites à tricher, vous craignez que votre femme ne triche. Est-ce que vous trichez ?
Oui.
Vous considérez que vous trichez ? Est-ce que vous le regrettez ?
Oui, parce que ça rend un peu instable et puis vis-à-vis de soi-même.
Ce qu'on entend dans votre témoignage, c'est les craintes de la réaction de votre femme. Mais vous, est-ce que vous avez décidé de changer pour éviter justement cela ?
où il y a plusieurs tentatives, j'ai essayé. J'ai été même soumis à des séances de méditation, de relaxation, tout ça pour vite que ça, on essaye d'oublier, parce que ça, je ne comprends pas finalement ce qui me prend, c'est quoi. Donc, on a toujours cette envie-là d'aller un peu ailleurs chaque fois. Bon, je ne comprends pas le pourquoi. Ouais.
Docteur Solano, on entend Bema qui essaye de faire des efforts, visiblement, mais qui n'y arrive pas.
Alors, moi, je comprends pourquoi, parce que vous nous avez expliqué pourquoi vous nous avez dit, quand j'étais adolescent, il y a une femme qui m'a quittée, et je me suis dit, eh bien, maintenant, je ne vais pas avoir une seule femme, parce que comme ça, au cas où elle me laisse,
d'assurance.
J'aurais eu un plan B, voire un plan C, comme on dit. Hein. Et en fait, ce qui fait que vous avez des relations extra-conjugales, ça n'est pas une mauvaise relation avec votre femme, puisque vous l'aimez, vous êtes bien, vous avez envie de rester ensemble. C'est même pas que vous avez du désir pour d'autres femmes. En fait, c'est que vous avez peur de vous retrouver tout seul à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous fait réagir. Vous vous dites, si elle me quitte, ça va être affreux, même si vous avez d'autres partenaires, en fait. Donc, la solution, d'abord, c'est de lui expliquer ça, que vous avez peur de vous retrouver seul, de lui raconter l'histoire que vous avez vécue adolescent, et c'est de faire un travail de thérapie pour cicatriser cette rupture. Et j'en profite pour dire une chose à nos auditeurs que je trouve vraiment importante, c'est que quand on quitte quelqu'un, ça peut arriver qu'on se dise on ne s'entend pas bien, ça sera pas viable pour une raison ou une autre. Il faut toujours essayer de le faire de la manière la plus correcte possible. Pourquoi ? Parce que si vous le faites d'une manière incorrecte, en trompant la personne pendant un an, en lui répondant plus au téléphone, en l'évitant, ça va faire une douleur très forte et la personne peut réagir de deux façon, soit comme Béma en se disant bah, puisque c'est comme ça, moi je veux avoir tout le temps plusieurs partenaires pour avoir quelqu'un sous la main et jamais être seule, et ça fera beaucoup, vous allez déclencher énormément de douleurs. Soit au contraire, c'est quelqu'un qui va dire les femmes je n'en veux plus, et qui pendant 10 ans ou 20 ans va plus avoir de relations, ou une par-ci mais sans jamais s'engager, et qui va être malheureux aussi.
Et on a un auditeur justement qui répond à ce profil, hein, c'est Sam de Kinshasa. Il dit, depuis que ma troisième fiancée m'a prouvé son infidélité, je me suis décidée de ne plus jamais avoir une relation sérieuse avec des filles.
Voilà.
Et il dit même que depuis qu'il a renoncé aux relations sexuelles.
Oui, et du coup, ça fait beaucoup de douleur parce que cette personne-là souffre, mais la femme qu'il aurait pu rencontrer, avec qui il aurait pu être heureux, elle souffre aussi parce qu'elle est toute seule et elle l'attend. Donc, c'est une espèce de chaîne. Donc, c'est très important. Alors, pour vous, déjà, faire de la méditation, de la relaxation, c'est bien parce que ça permet de s'apaiser. Mais ça suffit pas forcément.
Béma, est-ce que vous avez raconté votre histoire du début à votre femme, c'est-à-dire cette jeune femme qui vous avait laissé tomber?
Non, ça, je n'ai jamais expliqué.
Vous lui avez jamais dit que vous aviez eu une grande peine de cœur au départ?
Non.
Pourquoi vous ne pensez pas que ça pourrait l'intéresser quand même, de savoir aussi que vous avez souffert quand vous étiez jeune, et raconter un peu qui vous êtes de l'intérieur?
Bon, j'ai pensé que c'était pas intéressant, voire même important.
Ben là,
quand il y a un problème, que après, pour des raisons de réconciliation, bon voilà, il faut lui en parler, il faut avant de s'excuser, voilà, on essaie de revenir un peu sur la situation. Bon, certains faits ou événements de mon passé, quand même, elle connaît, mais par rapport à ça, je ne lui ai jamais été mieux informé.
Eh bien, ça serait important parce que je me mets à sa place. Mon mari me trompe tout le temps, il me dit « chérie, je vais pas recommencer, je tiens à toi ». Et il recommence, je me dis « mais il se fiche de moi ». Il me dit qu'il va pas recommencer, il recommence. Et je ne comprends pas pourquoi il fait ça, vous voyez. Je me dis, il me respecte pas. Si vous lui dites, écoute, je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu plein de copines avant de te rencontrer. Vous n'êtes pas obligé de lui dire pourquoi je te trompe tout le temps beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de copines. C'est parce que je me suis trouvée très très mal après cette histoire. Et je me suis dit, plus jamais je ferai confiance à une femme. Et donc, il m'en faut plusieurs. Et vous lui dites, j'ai pris l'habitude de ça et je sais que c'est pas une bonne chose pour notre couple, j'ai pas envie de continuer, mais je veux que tu comprennes. Et donc, ça, pour elle, c'est quand même différent de comprendre ça que de croire que vous vous moquez d'elle et que vous lui dites, mais non, je vais plus te tromper, et de s'apercevoir que vous continuez. Vous voyez la différence?
Ok, je comprends.
Mm-hmm. On vous souhaite une bonne journée, Béma. Oui.
Et la question que je voulais, en dehors de ce que vous venez de dire là.
Oui.
L'autre aspect, c'est que effectivement, cet événement-là, de cette séparation brusque-là, Au fond, je ne la sens plus. Je n'ai plus de remords. Je ne m'intéresse plus à cet événement-là. Mm-hmm. Mais pourquoi cette persistance-là, si vraiment c'est ça l'origine du problème? Pourquoi ça traîne trop alors que j'ai fourni assez d'efforts,
ouais,
pour que j'ai laisse finalement cette vie-là?
Mm-hmm. Et ben,
exactement, est-ce que...
Oui. Oui, c'est parce que notre cerveau, il est organisé pour nous protéger. C'est-à-dire que si un jour, vous allez toucher un animal dangereux qui vous griffe, votre cerveau, chaque fois que vous verrez cet animal, vous dira « attention, danger » et vous l'éviterez. Quand votre cerveau voit qu'une femme vous a fait du mal, comme quand dans votre adolescence, il vous dit « attention, danger » quand vous êtes avec quelqu'un dans une relation intime et que vous êtes amoureux. Donc, c'est un espèce de réflexe du cerveau qui veut vous protéger de la douleur. Et même si vous n'êtes plus amoureux de cette femme, même si vous dites « j'ai passé le cap, je voudrais pas retourner spécialement avec elle ».
C'est inscrit,
c'est comme une cicatrice active. Et en fait... on fait un travail de thérapie pour désactiver la cicatrice, comme qui dirait, pour qu'elle soit plus, qu'elle vous gratte plus, qu'elle vous démange plus, mais que ça soit une cicatrice, qui vous permette de fonctionner normalement.
Voilà, Bema, on vous souhaite une bonne journée en République démocratique du Congo. On part pour Brazza, retrouver Clarisse. Bonjour, Clarisse.
Bonjour.
Nous sommes...
Bonjour à... bonjour à tous les animateurs de l'émission.
Il y a le docteur Solano qui vous écoute, bien sûr. On vous écoute, allez-y.
D'accord. Bonjour, docteur Solano.
Bonjour à vous.
Alors, moi, je disais que ça fait une quarantaine d'années que je suis avec mon mari et nous nous sommes séparés pendant une dizaine d'années. Donc, je me suis retrouvée, moi, en France parce qu'il y avait les enfants et lui, il s'est retrouvé ici parce qu'il travaillait. Donc, quand je suis rentrée à l'issue donc de mon séjour en France, j'ai découvert qu'il avait une maîtresse. En fait, la maîtresse s'est fait connaître. Mm-hmm. Question de... peut-être de sortir de l'ombre. Et donc, à partir de ce moment-là, lui, il m'a rassuré en me disant qu'il fallait que je vive avec une femme, du fait que toi, tu étais loin pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Et moi, je l'ai cru. Je l'ai cru, si vous voulez, même jusqu'aujourd'hui, je le crois. Mais en fait, mon souci, c'est que j'ai perdu toute confiance du fait que cette maîtresse-là m'avait dit certaines choses de notre vie, si vous voulez, et dans le genre vous avez des biens ensemble, il reste avec toi, c'est simplement parce que il avait peur de perdre tous ces biens là et puis vous avez des enfants, autrement côté amour, il ne t'aime plus, pendant que mon mari me dit exactement le contraire. Mais moi je le crois, si vous voulez, je l'ai cru, mais j'ai ce doute-là qui ne me quitte pas. Et quand il vient, il se rapproche de moi. Il y a des moments où je l'envoie carrément sur les roses, parce que tout cela me revient et je me dis, en fait, il ne voulait sûrement plus de moi et que il préférait sa maîtresse. Et donc, avec ce doute-là, je vis très mal. Et même au niveau sexuel, ça devient... Il y a des moments où ça ne passe pas du tout.
Docteur,
je suis complètement bloqué.
Docteur Solano.
Est-ce que vous lui en avez parlé de ça, votre mari, de ce que vous a dit sa maîtresse?
Si vous voulez, il entendait, hein. Si vous voulez, c'était des coups de fil au parleur, et puis il entendait. Mais le truc, c'est que lui, il n'a pas réagi.
Il n'est pas trop tard pour lui en parler, pour lui dire, écoute, moi, je me sens bloqué parce que ta maîtresse m'a raconté ceci ou cela. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Voyez?
Je lui ai déjà posé la question, en fait, et il m'a assuré, il m'a donné des preuves qu'il ne voulait vraiment pas vivre avec cette dame-là. Que c'était moi et que c'était juste l'absence. Vous voyez?
D'accord. Je vais vous dire une chose, c'est bien possible, parce que moi, je serais un homme, ça me plairait pas du tout, même si j'avais une maîtresse qui vienne faire ce genre de choses, me dirait, c'est quand même une sale bonne femme, on peut le dire. Parce qu'elle, là, en vous disant ça, elle cherchait juste à vous faire du mal, peut-être en espérant que vous alliez quitter votre mari et qu'il serait disponible, vous voyez.
Clarisse, vous savez si votre époux a totalement rompu avec cette femme?
Oui.
Il a rompu avec elle.
A complètement rompu parce que, il a complètement rompu. Ça, c'est, on a repris, si vous voulez, notre vie comme avant.
D'accord.
Un couple qui n'avait jamais eu de problème. Mm-hmm. Mais la seule tache noire, c'est ça.
Ah, oui.
Qui fait que c'est moi qui suis maintenant, je sais pas comment vous dire, c'est moi qui ne supporte plus et qui ai des doutes en me disant, voilà quoi. Je veux le croire.
Vous êtes terriblement blessé aussi parce que cette personne vous a dit des choses peut-être avec une... Ben, c'est assez violent d'entendre tout ça, quand même, docteur Solano.
Oui, c'est très violent. Et puis, je pense que, comment dire, c'est de la méchanceté dans le sens où elle devait énormément souffrir que votre mari la quitte et qu'elle espérait, en faisant ça, vous faire autant de mal qu'elle ressentait de douleur. Et je pense qu'il faut vraiment vous dire... C'est moi la plus forte. Mon mari me dit qu'il m'aime. Et si vous aimez vraiment pas, je vois pas pourquoi il serait pas parti avec une autre femme. S'il était pas bien avec vous, en plus il vous le dit. Si vous le dites, c'est qu'il a envie que vous restiez. Donc, je dirais, il y a 99% de vrai dans ce qu'il vous a dit. Peut-être effectivement que c'était pas seulement pour ne pas avoir d'IST qu'il avait une maîtresse, parce que c'est un argument un petit peu léger. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on est loin et que il attendait qu'une chose, c'est que vous reveniez. Que c'était une remplaçante, je sais pas, quelque chose, c'est ce que je ressens, c'est que effectivement votre mari, c'est pas quelqu'un qui était fiable à 100% en étant loin, mais personne ne l'est non plus, et il est quand même fiable sur la durée puisqu'il est toujours avec vous. Donc je pense que ce qu'il vous dit, à mon avis, c'est quand même vrai, hein. Et cette personne blessée a essayé de vous blesser aussi, et puis il faut pas la laisser avoir de l'emprise sur vous.
Clarisse, et même quand vous en parlez, vous dites sa maîtresse, donc vous nous dites que la relation est terminée, donc vous devriez peut-être dire son ancienne maîtresse.
Oui, son ancienne maîtresse, effectivement. Mais en fait, si vous voulez, moi, mon souci, c'est que bon, mais ça m'a changé complètement, si vous voulez, de comportement dans la croyance, dans la confiance que j'avais en lui. Et en fait, ça fait quelque chose qui revient de temps en temps. Je vous dis que, et je me dis, et effectivement, et si ce n'était pas vrai, parce que si vous voulez, il y a l'environnement, il y a la contrainte, il y a les 40 ans, nous avons une grande histoire derrière nous. Et reprendre une nouvelle, peut-être que c'était pas possible, peut-être qu'il attendait que moi je revienne pour qu'il prenne celle-là en deuxième épouse, hein, comme ici on a. Mais quand il a vu ma réaction, peut-être que c'est ça qu'il a fait revenir sur... et puis bon.
Ben là, oui, mais justement, s'il a vu votre réaction, qu'il a réagi comme ça, c'est qu'il vous aime et qu'il a envie de vous garder. Hein. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, quand par moment toutes ces pensées reviennent, vous les chassez tout de suite. Parce que des pensées comme ça, on a tendance à ruminer. Il faut se dire, je pense à autre chose, je chante une chanson dans ma tête et j'arrête. Et du coup, si vous faites ça, elles reviendront de moins en moins.
Voilà pour ces conseils, Clarisse. On vous souhaite une très bonne journée à Brazzaville. On va prendre au Bénin, Cotonou, Daniel en ligne. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Oh, la ligne n'a pas l'air très bonne. Daniel, on va essayer de communiquer. J'espère que ça va pouvoir bien se passer. Le docteur Solano est à votre écoute. Allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour Daniel.
Moi je suis Daniel. Et j'appelle de Cotonou. J'ai 38 ans. Je suis marié. Et ma femme a le même âge que moi. Nous avons 15 ans de vie en couple. Et le problème, c'est que depuis 6 ans, j'ai commencé par avoir un problème. J'éjacule assez vite. C'est-à-dire, en moins d'une minute, quand on commence les relations sexuelles, j'éjacule. Et à un moment donné, c'est devenu un problème pour nous tous. Et j'ai essayé beaucoup de solutions. Des solutions traditionnelles, comme dans la médecine classique, moderne, je veux dire. Et puis, bon, OK, pas de solution. Et puis, il y a 7 mois environ, dans le mois de février, j'ai entamé une relation extra-conjugale avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Mais je vous avoue que ça se passe très bien. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma première question. Je viens à la maison, j'essaye comme je l'ai essayé au bureau, mais ça ne marche pas, c'est la même chose. Mais quand je suis avec l'autre, ça marche très bien. OK. Aujourd'hui, je me culpabilise. J'ai honte, je n'arrive plus à regarder dans les yeux de mon épouse. Je me demande quand elle va découvrir ma relation extra-conjugale, qu'est-ce qui va se passer. Et je me pose également la question, si éventuellement elle-même se mettait dans une relation un peu comme la mienne, est-ce que cela ne va pas détruire mon couple? Donc voilà un peu mon problème.
Docteur Solano, Daniel pose des questions intéressante parce que il se remet en cause, il a un petit peu des craintes par rapport à ce que cette relation pourrait abîmer dans sa relation avec son épouse.
Et c'est vrai que une des raisons des relations extra-conjugales, c'est les difficultés sexuelles. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, des fois on peut être tenté de se dire est-ce qu'avec une autre personne, un autre homme ou une autre femme, ça marcherait mieux. Et alors, ce que je peux vous dire, vous nous avez dit depuis 5 ans, ça va moins bien. J'ai une éjaculation précoce qu'apparemment je n'avais pas auparavant. Et donc la question c'est qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans ? Très souvent, quand l'éjaculation devient précoce, c'est parce qu'on espace les rapports sexuels. Quand on a moins souvent de relations sexuelles, l'éjaculation devient plus précoce. Et le fait d'en avoir plus souvent, ça dure plus longtemps. Est-ce que c'était le cas dans votre couple ?
Ben, par rapport à la fréquence, on a des relations 3 fois par semaine quand le problème s'était posé.
D'accord.
Mais
donc, ce n'était pas des relations forcément espacées.
Donc, ce n'était pas ça. Est-ce que quelque chose a changé dans son comportement à votre femme aussi ?
Bon, je peux lier ça au problème que nous avons dans le couple. Aujourd'hui, elle ne s'intéresse plus aux relations sexuelles. Elle m'a dit une fois, je m'apprête pour ça juste pour te satisfaire, sinon moi j'ai fermé cette page.
Ouais. Donc, parce que il y a une chose qui peut, il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher une éjaculation précoce. D'abord, c'est le stress. Il y a des hommes qui, avec certaines femmes, ont une éjaculation précoce parce que elles les stressent. Pas forcément par leur attitude, mais parce que l'homme se dit, ça, elle va pas être satisfaite, donc je suis stressée, donc le stress déclenche éjaculation précoce. Ça peut être aussi parce que la femme n'est pas à l'aise dans sa sexualité, qu'elle dit, moi, je veux faire l'amour dans le noir, je suis pas à l'aise, et du coup, l'homme se sent maladroit et c'est pas facile pour lui. Alors qu'avec une femme qui est très à l'aise, ça peut être plus facile. Mais je pense pas que ça soit ça, sauf si votre femme, effectivement, vous a fait des remarques en disant, je suis pas satisfaite, plus c'est stressant, moins on y arrive. Alors qu'une femme qui dit, mais t'en fais pas chérie, ça ira mieux demain, ben ça va mieux. Est-ce que vous ressentez ça ou pas?
Daniel.
Ok, à un moment donné, mon boulot était vraiment stressant sur moi. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je ne suis plus dans ce type d'activité qui me mettait beaucoup de pression.
D'accord. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Je vais vous donner quelques petits conseils pratiques pour avec votre femme. La première, c'est d'essayer des préservatifs. De lui dire, écoute, on va faire l'amour avec des préservatifs, pas pour les IST, mais parce que ça retarde parfois l'éjaculation. Il y a même des préservatifs spéciaux. Il y a aussi des petites crèmes anesthésiques locales. Donc, en utilisant ça, peut-être que vous pourriez relancer la machine dans le bon sens avec votre femme.
Voilà pour ces conseils pratiques du docteur Catherine Solano. Daniel, on vous remercie beaucoup pour votre appel. On vous souhaite une excellente journée à Cotonou. Et bien sûr, je vous remercie, docteur Catherine Solano, encore pour toutes ces questions, toutes ces conseils, surtout toutes ces réponses aux auditeurs de Priorité Santé. Et Catherine, on va vous retrouver jeudi prochain pour d'autres réponses aux auditeurs que vous nous posez sur la page Facebook de Priorité Santé. À la semaine prochaine.
À bientôt, Caroline. À bientôt à nos auditeurs et à nos auditrices qui étaient super adorables.
Voilà. Encouragement du docteur Solano. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique Priorité Santé. Aujourd'hui, Juliette Brault, Louise Cadelec, Didier Bleu et Jérémy Bessé. Demain, dans Priorité Santé, coup de projecteur sur les immunothérapies, un traitement innovant de certaines maladies inflammatoires et de certains cancers. On va se retrouver donc demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.